Donc, lisons la parole de Dieu avec un très grand respect et retournons au sujet principal que j'ai abordé avec vous depuis 2-3 jours, c'est la Sainte Cène. Dans les églises évangéliques, on prend le pain et le vin et on ne considère pas que le pain devient le corps de Christ, on ne considère pas que le vin devient le sang de Christ, mais on considère que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Quand on prend le pain et le vin, on célèbre sa mort et sa résurrection et sa présence dans nos vies. Alors, nous participons à la vie de Christ si nous donnons notre cœur, notre âme à Jésus-Christ. Nous participons à la vie du Seigneur Jésus. Dans Galates chapitre 2, verset 22, Paul dit ceci, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il dit aussi, « J'ai été saisi par Christ. » Alors, chers amis, la relation avec Jésus est une relation de grand amour. Mais Jésus est sans péché, est dans une noblesse, une dignité remarquable, une sainteté remarquable. Aimer Jésus, c'est aimer la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et quand il parlait à Pilate, il a dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Parce que ce monde est construit sur le mensonge, pas sur la vérité. Vous pouvez constater partout dans votre vie, autour de vous, même dans les proches, on construit beaucoup de choses sur le mensonge. Et plus on ment, plus on s'enfonce pour mentir encore. Alors, chers amis, soyons prudents. Jésus-Christ est la vérité. Quand nous prenons le pain et le vin, nous allons vers le représentant divin, vrai, le vrai, qui n'est pas habité de passion, qui n'est pas habité de tendances destructrices, mensongères, de pensées impures, de souillures. Jésus est pur et saint. Donc Jésus rafraîchit notre âme lorsque nous prenons le pain et le vin à la Sainte Cène. Ce que les catholiques appellent l'Eucharistie. Jésus rafraîchit notre vie intérieure. Il rafraîchit nos vies spirituelles qui sont toujours sans cesse fatiguées, qui s'inclinent vers le bas, nos âmes alanguies. Et il développe en nous un nouvel amour pour le vrai, pour la bonté, pour l'honnêteté. Et il nous engage, Jésus, du fait qu'on prend le pain et le vin, il nous engage dans son chemin. C'est plus qu'un symbole. C'est qu'en prenant le pain et le vin, j'adhère du fond de mon cœur, de mon âme, à Jésus de Nazareth qui est vivant, et je lui appartiens. Donc, je confirme en prenant le pain et le vin que je lui appartiens. Je confirme mon adhésion, ma foi. Et il est logique que mon comportement change. Autrement, je suis un menteur et je ne prends pas le pain et le vin en adhérant à Jésus, je n'adhère qu'à mon propre péché et peut-être au malin. On peut prendre le pain et le vin, prendre la Sainte Cène, tout en étant ami de Satan. Et laisser croire qu'on est enfant de Dieu. Donc, il faut faire attention, chers amis, il y a toujours eu de l'imposture, du blé livré, des brebis et des boucs. Ce sont toutes les prophéties, les paraboles de Jésus. Mais je ne parle pas de Satan, je ne veux pas lui faire d'honneur, ni à toutes ces déviations si tristes, si mauvaises. Je parle de ce que Jésus est pour nous. Jésus a touché Thomas dans son cœur. Thomas a touché les trous dans ses mains et dans ses pieds et dans son côté. Mais Jésus a touché Thomas dans son cœur, dans son âme. Et Thomas s'est engagé à adhérer et à évangéliser le reste de sa vie. Il est passé en Éthiopie, en Inde, et puis le sud de l'Inde l'a accueilli ont pris sa vie, bien sûr, il y a eu beaucoup de chrétiens d'église. Le corps de Thomas a été brisé, son sang a été versé. Mais si nous voyons l'apôtre Paul, c'est la même chose. On l'a décapité, son sang a été versé. Pierre était crucifié, la tête en bas. Tous les apôtres ont connu le chemin de Jésus, le martyr. Et il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui sont engagés pour Christ et qui connaissent le martyr. Et ils ne sont pas troublés par le mal qu'on leur fait. Ils sont en Christ. Ils sont avec Christ. Ils vivent pour Christ. Et comme je le disais l'autre jour, dans Jean chapitre 20, verset 31, tous ces miracles, tous ces récits qui sont dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 31, Jean dit ceci, c'est afin que vous possédiez la vie en son nom, la vie en Jésus. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. Si nous prenons les expressions qui se trouvent dans l'Apocalypse, à chaque église, quand Christ reçoit Jean dans l'intimité et se révèle, Christ parle de cette église à Jean. Et quelqu'un toque à la porte sur l'île de Patmos, là où il est en résidence surveillée, c'est successivement le délégué de l'église ou les délégués de l'église d'Éphèse, puis ensuite l'église de Thyatire, de Smyrne, de Sardes, de l'Apocalypse, de Laodicée, etc. De Philadelphie et de Laodicée. Et finalement, chacun retourne avec un message que Jean leur délivre et qui vient de Christ. Et dans tous ces messages, toujours à la fin, je vous le dis franchement, Jésus leur promet la victoire. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Nous ne sommes pas abattus, découragés devant la difficulté. Nous ne sommes pas des gens qui perdront la bataille. Nous sommes vainqueurs. Quand nous prenons le pain et le vin, c'est pour la victoire de Christ dans l'histoire. Quand le temps des nations est fini, quand le règne de l'argent, de Satan, que l'impureté sera finie, eh bien, la victoire appartiendra à ceux qui ont mis leur confiance en Christ et qui ont adhéré à Jésus-Christ. Je prends Apocalypse chapitre 2, verset 7. Donc c'est à la fin du discours, de l'enseignement donné à l'église d'Éphèse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Nous avons un combat à mener, chers amis. Quand nous prenons le pain et le vin, c'est ça que je veux dire, nous ne sommes pas là pour mastiquer du pain et boire du vin. Nous ne sommes pas là pour faire un rite. Nous avons choisi de mener un combat, le combat du royaume de Dieu. Dans un monde où Satan est le maître pour le moment. Alors, prenons les autres versets. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Pour l'église de Smyrne, cette fois-ci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que ça veut dire, seconde mort? Ben, quand nous sortons du ventre de la maman, nous sommes morts, nous sommes séparés de Dieu éternellement. Quand nous adhérons à Jésus-Christ, que nous confessons notre nature pécheresse, acceptons Jésus comme sauveur, nous passons de la mort à la vie. Rappelez-vous ce que Jean a dit dans Jean chapitre 5, verset 23, « Celui qui garde mes paroles et met en pratique est passé de la mort à la vie et ne passe point en jugement. » Voilà, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu, dans son grand amour, à cause de son grand amour, nous a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais et la vie éternelle. Jean 3,16. Donc, nous voyons bien que c'est une victoire pour la vie. C'est une victoire pour sortir du bourbier que le péché d'Adam et Ève nous a mis à la naissance. Pour tout homme. Donc, pour celui qui a la vie éternelle, parce qu'il croit en Jésus, il ne connaît pas de seconde mort, il ne connaîtra pas de séparation de Dieu une deuxième fois, s'il a réellement accepté Christ dans sa vie. S'il meurt physiquement, c'est simplement un sommeil, c'est l'image d'un sommeil, je m'endors à 11h ou à 8h du soir, minuit, je me réveille à 6h ou 8h du matin, c'est le temps, un temps très court, et ce n'est pas grave, je sais que je vivrai avec Dieu, auprès de Dieu, des anges et des saints, pour l'éternité. C'est l'image du sommeil, ce n'est pas durable, c'est provisoire, c'est temporaire, et ce n'est pas si grave que ça tout compte fait, la mort physique, puisque Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, quand il dit ça à Marthe et à Marie. Alors, qu'est-ce que c'est que la seconde mort? Ben, la seconde mort, c'est ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et quand Jésus revient, il ressuscite ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient sur terre et qui sont là à sa venue, et il met tous ceux-là ensemble et il les prend près de lui. Et puis l'Antichrist vient sur la terre, l'Antichrist pendant 7 ans, fait périr 3/4 de l'humanité, fait souffrir les incroyants, les incrédules, etc., fait souffrir même ceux qui se convertissent durant cette période-là. Et après coup, il y a le temps du royaume de Dieu, de Christ, sur terre, 1000 ans. Et à la fin du temps du royaume de Christ, il y a la résurrection des injustes, de ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ressuscitent à la fin du royaume de Christ, qui n'ont pas cru, les incrédules, aussi les rebelles, mais il y a des rebelles qui se convertissent, hein, évidemment, mais les rebelles durables, eh bien, ceux-là ressuscitent, non pas pour être auprès de Dieu, mais pour être avec Satan, dans les temps de feu et de soufre, dans les tourments éternels. C'est cela la seconde mort. La seconde mort, c'est ce qu'on appelle le jugement final, qui est destiné aux incrédules. C'est une seconde résurrection. La résurrection des justes est avant l'enlèvement de l'Église. La résurrection des injustes est beaucoup plus tard, 1700 ans après, et elle occasionne, pour ceux qui ont refusé Christ, son sacrifice à la croix, occasionne une séparation éternelle, irréparable, irréductible. Voilà, continuons. Nous avons la possibilité d'être dans la victoire, c'est-à-dire, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. C'est ça qui est promis à cette Église. Alors, continuons à lire, chapitre 2, verset 17. Il s'agit d'une autre église, celle de Pergame, là où Satan a son trône, c'est pas rien. Chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, c'est-à-dire qui reste fidèle, malgré les persécutions diaboliques et sataniques qui viennent à certains moments dans certaines régions contre les disciples de Jésus qui ont déjà eu lieu et qui viendront encore dans les périodes de tribulation, eh bien je donnerai de la manne cachée. Donc dans le désert, Moïse avait de la manne pour son peuple, Dieu l'accordait cette manne. Eh bien dans les périodes de grandes difficultés, de tribulation, il y aura toujours à manger, malgré tout, à travers les immenses épreuves pour celui qui reste fidèle à Dieu. Et la deuxième chose, un caillou blanc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lors des grands règnes des empereurs à Rome, le temps du prestige, il y avait des colisées un peu partout, où tout le monde venait hurler, se défouler, etc. assister au combat des gladiateurs, etc., assister à des sacrifices humains et des sacrifices diaboliques. Mais ce qui a, pour beaucoup de gens, étaient pauvres, n'avaient pas d'argent pour rentrer. Et donc, l'empereur possédait une grande carrière, pas loin de Rome, où il n'y avait que des petits cailloux blancs de silex. Et donc, on distribuait à la population des petits cailloux blancs, et comme ça, ils avaient un ticket gratuit pour rentrer au Grand Colisée et pour voir les horreurs que proposait l'empereur. Ici, dans ce cas-ci, si un chrétien reçoit un petit caillou blanc, c'est-à-dire qu'il reçoit un passeport, un pass sanitaire, non, un pass éternel, c'est pas pour le Covid, c'est pour la vie éternelle, un pass eternum, éternité, il reçoit le droit d'entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Il reçoit gratuitement une place au ciel. Et cela, c'est extrêmement important. C'est une grande victoire, chers amis. Parce qu'il n'y a pas besoin d'argent, de faire de messes, de faire des grandes processions, etc., des grands tralala religieux pour être sauvé. Puisque le petit caillou blanc représente un acte gratuit de la part du grand Seigneur du ciel à notre égard. Prenons chapitre 2, verset 26. Chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc, vous savez de quelle église il s'agit. Il s'agit de l'église de Thyatire, où il y a Jézabel, une femme, une médium, qui dirige même l'église et les représentants de l'église, les dirigeants, qui les a mis dans sa poche. Une médium. Alors, verset 26, à celui qui craindra, qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, donc comportement et engagement humain, chrétien, sérieux, spirituellement conduit par Christ, eh bien, je donnerai autorité sur les nations et il les pètera comme, avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, voilà quelqu'un qui aura l'autorité de participer à la venue de Christ pour établir son royaume, à ce grand moment de jugement des vivants et des morts, les morts étant ceux qui sont sans Dieu, et celui qui vaincra, eh bien, qui a été fidèle, il participera à mon œuvre, à mon jugement à l'égard des impies. Ce n'est pas dire qu'il va commencer à couper des têtes, etc. Ce n'est pas ça. Mais il va être... Il est du côté de celui qui a pleinement autorité. Il est de celui du côté qui a pleinement autorité contre les puissances démoniaques qui conduisent ce monde actuellement et qui le conduiront encore plus quelque temps. Prenons chapitre 3, verset 5. Il s'agit de l'église de Sardes. Une église complètement apostate, où il n'y a que un ou deux croyants sincères qui tiennent le coup, bien, tant bien que mal. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc pensez à Apocalypse 19, les noces de l'agneau, où Christ remet une robe blanche sur son épouse, mais eh bien, ils feront partie de cette épouse. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, malgré que c'est une église complètement apostate, il y a deux, trois ou quelques chrétiens fidèles qui auront cette reconnaissance de la part de Dieu aux noces finales, Apocalypse chapitre 19, et qui seront parés de l'éclat de la gloire de Jésus-Christ, l'événement blanc. Alors, au chapitre 3, verset 12, il s'agit donc maintenant de la conclusion du discours, du message à l'église de Philadelphie, qui est, je dirais, l'église là, spirituellement qui se porte le mieux. Au verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » est le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux Églises. Donc nous voyons ici que dans la Jérusalem céleste, la cité de Dieu sur terre, les croyants qui ont conduit leur vie dans l'amour de la parole de Dieu et dans une humble vie, sans recours à des puissances humaines, artificielles et dangereuses, eh bien, vous pouvez lire ce texte, il en vaut la peine à propos de cette Église. C'est une victoire totale pour les membres de ces chrétiens. Une victoire spirituelle éternelle, glorieuse. Alors, nous avons encore quelques textes à lire. Chapitre 3, verset 21. C'est une église lamentable, ramollie, endormie. Jésus est parti de l'église, il a même fermé la porte. Et il laisse les membres de cette église moisir dans leurs mensonges. Mais il revient à un moment donné derrière la porte et il toque. Et il leur parle. Il dit, Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Celui qui entend ma parole, ma voix, et qui m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je mangerai avec lui, il mangera avec moi. » Donc c'est l'image de la Sainte Cène. C'est l'image de la commémoration de son sacrifice à la croix et de sa résurrection. Donc, celui qui ouvre la porte de son cœur, de son âme, et qui entend sa voix, c'est-à-dire son évangile, et qui adhère au saint sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour ses péchés, qui adhère à la résurrection de Jésus-Christ, est vainqueur. Celui qui vaincra, verset 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc la victoire est continuellement promise, quel que soit l'état de l'Église, quel que soit l'état lamentable ou brillant de l'Église, de cette Église. Jésus veut que nous ayons la victoire et pas la défaite. Et ça, c'est extrêmement important, chers amis. Nous avons besoin de croire que Jésus et que Dieu, son Père, veulent tous les deux le meilleur pour nous. Nous avons trop tendance à douter de cela et nous avons trop tendance à croire que notre vie, pof, on est chrétien, oui, mais c'est pas brillant, c'est pas marrant, etc. Ah, avec tout, le monde comme il est, etc. Et puis, tous ceux qui nous entourent, qui ne croient pas. Chers amis, chers frères et sœurs, Christ a été vainqueur à la croix, il est ressuscité. Christ est monté au ciel. Christ fait des miracles, encore aujourd'hui. Christ touche des cœurs et transforme des vies. Christ est vainqueur et, si vous donnez votre vie réellement à Christ tous les jours, vous êtes vainqueur. Vous êtes dans cette victoire que Dieu veut pour tous les humains, mais vous êtes dans ceux, l'exception, qui acceptent la proposition de Dieu. Donc prendre le pain et le vin, c'est prendre le pain et le vin de la victoire. C'est prendre le pain de la Sainte Cène comme le signe de la victoire que Dieu me donne. Pas de la victoire que je fais par moi-même, évidemment. Et rappelez-vous qu'aux sept églises, Christ dit ceci, écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Donc, quel que soit l'état de l'Église, l'Esprit Saint parle et veut se faire entendre à toutes les églises de Christ. Je trouve ça formidable de la part de Dieu d'être aussi attaché à nous, les pauvres humains, d'être aussi aimant, miséricordieux. Nous avons un grand Dieu, nous avons un immense privilège d'avoir un tel Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la terreur, ce n'est pas le Dieu de la frayeur. C'est pour ça que Paul dit, dans Romains 8, verset 1, « Celui qui croit en Christ n'est point dans l'esprit de condamnation, de culpabilité. » Il est dans l'esprit de la victoire, de la vie victorieuse. Christ a décidé de s'unir à nous pour nous entraîner dans sa victoire. Et quand je prends le pain et le vin, j'accepte que Jésus m'attrape par les épaules et me tienne dans la barque, malgré la tempête, et que j'arrive au bon port. Tous ensemble, nous arrivons, grâce à Christ, à cette victoire promise, si nous donnons notre foi sincère et entière à Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que dit Jésus dans Matthieu, chapitre 26, verset 27, « Buvez-en tous !» Il souhaite que nous soyons tous, tous sauvés. Mais, l'histoire nous montre que plusieurs ont toujours défailli, plusieurs se sont même opposés, plusieurs se sont rebellés contre Christ. Faut-il s'attarder à ça? On ne peut pas se moquer, bien sûr, mais faut-il s'attarder et se décourager à cause de cela? Non. Parce que déjà Jésus nous a unis éternellement. Est-ce que je le crois? Par son sang. Et nous sommes ensemble avec lui, déjà maintenant. L'unité que nous avons avec Jésus est une unité interactive. Il a la puissance, il a la victoire, mais moi, j'ai ma responsabilité. J'ai mes sentiments et mon cœur. Et ma volonté que je lui offre. C'est une unité interactive et c'est une unité sanctificatrice. Dieu est tout entier favorable à me rendre glorieux, à me rendre saint, à me rendre semblable à Christ. Dieu est tout à fait entier dans son projet à mon égard. Est-ce que moi aussi j'ai envie de cette sanctification que Dieu me propose, que Jésus me propose, en prenant le pain et le vin? Chers amis, c'est très très important. C'est un lieu, un grand lieu, un grand moment de prendre le pain et le vin ensemble entre frères et sœurs. C'est un grand moment aussi que le baptême par immersion. Parce que nous acceptons cette unité interactive avec Jésus et nous acceptons de laisser de côté notre vieille vie, notre vieille peau, notre vieille âme. Nous allons tout droit en Christ vers la cité céleste, la cité de Dieu. Par l'ordonnance de la Sainte Cène, oui, nous obéissons, mais surtout, nous bénéficions de l'amour infini de Dieu. Et l'amour infini de Dieu a autorité sur toutes mes faiblesses, mes imperfections, mes marches arrière. Dieu n'est pas mesquin, il sait déjà que je suis fragile, je suis faible, je suis pécheur, dès qu'il m'a sauvé à la croix. Il le sait, dès que j'ai confessé mon péché, que je me suis converti. Alors, nous devons reconnaître que le sarment n'est pas le cep de la vigne. Le cep, c'est Christ. Le sarment, ce sont les petites branches qui sont branchées dessus. Et la cep, le Saint-Esprit, donne vie aux sarments. Nous sommes les sarments. Nous sommes les petites brebis. Et le bon berger rattrape ces petites brebis quand elles se perdent, quand elles se cassent une patte, quand elles ont faim, quand elles ont soif, etc. La présence de Jésus est puissante. Et je vais vous lire un beau texte dans le Cantique des Cantiques qui me semble bien exprimer l'amour de Jésus pour nous, et de Dieu le Père, évidemment. On ne peut pas opposer. Vous savez que parfois, dans notre société, il y a beaucoup de gens, maintenant, ils opposent Dieu et Jésus. Ah, mais il faut être patient quand on évangélise. C'est pas simple. Et parfois, les esprits sont durs. Il faut vraiment un grand miracle de Dieu. Le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. « J'ai ouvert à mon bien-aimé mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Écoutez, ça c'est la passion. C'est la passion, mes amis. Avez-vous de la passion pour Jésus? Attendez-le, il revient. Verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, toi, la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Pourquoi tu nous conjures ainsi? Alors, c'est vraiment les moqueries, hein, à propos de Jésus et de notre situation chrétienne en Occident, mais c'est pas grave, regardez, ça existait déjà. Et regardez comment elle parle, cette brave jeune fille qui aime son bien-aimé, son prince, qui va revenir. Regardez comment elle, mon bien-aimé blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe. La myrrhe, vous savez très bien, c'est le symbole royal. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites, son corps est d'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont comme des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Donc, ce que je vous ai lu, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 5. Et vous commencez au verset 6 et vous allez jusqu'au verset 15. Quand vous voyez cette description du bien-aimé, c'est la même description qu'on trouve dans Ézéchiel, chapitre 2, chapitre 8 et 10, dans Apocalypse, au chapitre 1, et puis plus tard. C'est le Christ dont parle cette bien-aimée. Et vous, avez-vous des mots d'amour, des mots de passion d'amour pour Jésus? Il a tellement d'amour et de passion pour vous. Répondez à son amour, chers amis, et allez dans votre église humblement et respectez l'amour de Christ. Ayez de la passion pour son amour. Prenez la Sainte Cène avec le plus grand respect, le plus grand amour. La Sainte Cène de l'amour éternel. Dieu vous bénisse. Nous sommes mercredi à vendredi.